trois petits coups, et puis s'en vont.
La quintessence de Vendredi Théâtre, le meilleur des derniers plateaux en direct.
Et oui, vous êtes sur Vendredi Théâtre. Et nous recevons pour le spectacle Au Carmen, justement, Olivier Martin Salvant. Bonjour.
Bonjour.
Pour ce spectacle qui est un opéra clownesque. Un opéra clownesque autour du Carmen de Bizet.
Oui, c'est ça. Là, on le joue au Théâtre des 13 Vents avec grand plaisir. Et c'est vrai que je reviens sur cet extrait. C'est vrai que Teresa, c'est magnifique, quoi. J'essaye de m'inspirer parce que je chante aussi les sopranos dans le spectacle, les mezzos mais aussi. Donc. Et c'est vrai que je m'inspirerai ce soir de sa magnifique voix.
On retrouvera d'ailleurs cette version tout à l'heure avec Placido Domingo, qui faisait partie de la distribution.
Ah oui, c'est vrai.
Alors, cette Au Carmen.
Juste un petit truc. Il y a un petit lien, puisque Teresa Berganza, elle est née, elle était la fille du concierge de l'opéra. Donc, il y a un petit lien avec le spectacle. Ah, elle a dû voir pas mal de choses qui se passent dans le spectacle, dans son enfance.
Les coulisses aussi.
Exactement.
Ouais, c'est le spectacle, c'est un one-man show. Vous faites tous les rôles. En fait, vous imaginez une mise en scène du Carmen de Bizet et vous jouez tous les rôles.
Voilà, c'est la trame du spectacle. C'est que l'idée, c'est de faire des auditions jusqu'à la première de l'opéra de Carmen. Voilà, je joue pas l'opéra Carmen, je joue les répétitions. Mmh. Ça, c'est vraiment la particularité de ce spectacle. Et aussi, la particularité, c'est que voilà, donc je fais le chef d'orchestre, le metteur en scène, les rapports de force, les égos surdimensionnés qui se rencontrent. Et je fais aussi une chauve-souris, parce qu'on ouvre une trappe à un moment. Je dois faire à peu près, on avait compté il y a quelques années, je dois faire 70 personnages. Et je chante aussi les airs de Micaela, de Carmen, dont José Escamillo. Donc voilà, c'est vrai que c'est une performance physique, vocale. Et
oui, parce que voilà. Vous jouez toutes les voix, c'est-à-dire vous jouez à la fois la soprane, vous jouez la mezzo, vous jouez le baryton, ouais. Vous jouez le ténor, ouais. Vous jouez...
le cœur des enfants.
Le cœur des enfants. Alors comment ça vous est venu cette idée de spectacle? Parce que c'est assez fou quand même.
Ouais, c'est fou. Ouais. C'est vrai que c'est un spectacle, en plus estampillé ado-friendly au 13 vents, mais c'est marrant parce que c'est un spectacle qui a beaucoup de niveaux de lecture. Par exemple, je vous avais raconté quand vous êtes venu voir le spectacle, Nathalie Dessay faisait un peu la moue après le spectacle. Je lui ai dit, est-ce que tu as aimé? Elle me fait, oui, j'ai adoré. Mais ce qui est troublant, c'est que c'est la moitié des répliques de ce spectacle sont que j'entends ça tous les jours. Quoi. Donc ça, c'était vraiment le plus beau compliment parce que c'est vrai qu'on a fait un travail de journalisme avec Anne Relais-Simon, la dramaturge, qui est à Véronèse, qui n'est pas si loin, et Nicolas Vial, le metteur en scène. Et on a essayé d'être très précis par rapport à cet univers de l'opéra qui est passionnant. Et puis je voulais raconter à un moment les répétitions d'un spectacle de théâtre. Et après, je me suis dit, en découvrant l'opéra, en prenant des cours de chant, tout ça, je me suis rendu compte que l'opéra, c'était 10 fois plus. Mmh. Presque 10 fois plus de budget, 10 fois plus de monde, 10 fois plus de monde, donc de rapports de force ou de rapports compliqués ou de séduction. Mais c'était vraiment une étape très intéressante, le travail de journalisme presque qui a été fait avec ce spectacle.
Il y a un moment aussi, vous parlez des cours de chant. un moment tout à fait hilarant.
Qui ouvre le spectacle et c'est des profs que je les cite pas, mais je les ai rencontrés.
Ouais. On sent du vécu.
Oui, il y a du vécu, c'est clair.
On sent du vécu.
Donc au début, le jeune chanteur qui passe l'audition, Louis Bossis, il arrive et il dit voilà, moi j'ai. Ah, vous me demandez ma formation, c'est la première fois que je passe une audition. J'ai travaillé avec et là, hop, je passe, je change mes premiers personnages où je fais 6 professeurs. Et voilà, c'est des mélanges de profs de théâtre que j'ai eu, des gens que j'ai rencontrés, mais beaucoup inspirés de profs de chant que j'ai rencontrés avec des gens qui parlent trop, des métaphores donc on se perd, ou quelqu'un qui veut vous arracher le diaphragme parce qu'il n'arrive pas à faire comprendre ce qu'il veut.
Tito, ça t'a parlé particulièrement.
Oui, les trucs exotériques aussi.
Oui.
Oui. Alors, j'ai des souvenirs là-dessus. Je comprenais rien de ce qu'elle racontait parce qu'évidemment, je suis pas du tout dans cet univers. Je suis très cartésien. Et là, elle, oui, puis ça sort par là. Et puis elle tirait comme un fil. Il y a un fil là qu'il faut tirer. Bon, oui. Au bout d'un moment, on finit par comprendre. C'est pas complètement bête d'ailleurs, ce qu'ils disent.
C'est vrai.
Sauf que c'est la formulation qui est croustillante, quoi, parce que ils sont tous à moitié ésotériques. Je sais pas pourquoi, mais ils sont tous à peu près.
C'est compliqué, c'est-à-dire qu'il y a des professeurs qui, c'est leur vocation d'être pédagogue, mais même on peut parler ça pour plusieurs arts, mais il y en a certains qui sont par défaut pédagogues. Donc c'est-à-dire que ça crée des choses compliquées par rapport à une. bah, il se projette sur un élève ou c'est assez compliqué. Et puis ça raconte un peu ça. Bah, il y a beaucoup de choses dans ce spectacle qui est donc une grosse blague sur l'opéra, parce que le sous-titre opéra clownesque. Mais derrière, il y a des choses de des chanteurs qui rentrent chez eux aussi, l'intimité de ces de l'artiste qui rentre chez lui, parce que les gens applaudissent, vont au théâtre, mais après, voilà, l'artiste à l'hôtel. Qu'est-ce qui se passe, voilà, ou dans sa famille, comment il rentre, dans quel état il rentre, qu'est-ce qu'il a laissé sur le plateau, ce que les gens ont pris, lui, ce qu'il a pris, son rapport au monde, son rapport à son métier. Ben voilà, j'ai voulu raconter plein de choses.
Et pourquoi avoir choisi Carmen ?
Eh bien, ça, c'est Anne-Relais Simon qui a voulu qu'il y ait Carmen. Moi, à l'origine du projet, j'étais tout seul et j'avais cette chose d'opéra. J'avais un numéro de clown, je faisais tous les personnages en opéra. Et moi, je partais sur le Barbier de Séville. Mais elle m'a dit, tu sais, ça serait vraiment bien que ce soit un opéra français et le plus connu du monde. Carmen, ça nous aidera pour une sorte de fil conducteur en plus de ces répétitions. On pourra comme ça construire le spectacle autour des répétitions de l'opéra de Carmen, et en plus on va suivre chronologiquement par acte ce qui se passe dans l'opéra. Et c'est vrai que ça a été vraiment un choix très important, et en plus, même comme moi je suis pas très connu, je sais que les gens viennent beaucoup pour Carmen aussi. Et ça, c'est vrai que c'est notre star du spectacle.
Gardia.
Oui, moi j'aurais voulu savoir un petit peu comment vous avez construit le texte. Alors, parce que tout est millimétré,
à la consonne près.
Voilà, et aussi votre relation avec la pianiste, oui, vous la regardez pratiquement jamais.
Elle est fabuleuse, la pianiste. Ouais,
super. Comment vous avez...
Bah, c'est vraiment un travail de précision. Hein. C'est vraiment, par exemple, mon rapport avec Anne Thomas. Il y a quelque chose de la respiration. Bah, c'est une accompagnatrice. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce métier d'accompagnateur, même sur chaque respiration, même si moi, parce que c'est un spectacle extrêmement physique, même sur la respiration, des fois, je cours partout et après, pof, je dois me poser pour un air de Carmen ou un air de Escamillo. Et voilà, sans se regarder, il y a des choses, il y a du millimètre. Et après, pour revenir sur le texte, je suis souvent parti en improvisation en me souvenant d'interviews de chanteurs, de metteurs en scène, d'assistants, d'assistants costumiers. Je suis parti en impro sans écrire quand je rencontrais les gens. Donc en fait, quand je suis parti en impro, souvent, ce que me disait Nicolas Viel, il me disait « T'inquiète pas, jette-toi à l'eau, ce qui restera, le mieux sera là. » Donc voilà, ce qui était un peu plus anodin partira de soi-même, quoi. Donc, on a travaillé sur de l'improvisation. Je partais sur des moments où je partais des après-midi en répétition. En plus, je jouais le soir à Chaillot, un spectacle, un Shakespeare. Donc, j'étais épuisé, donc il y a des choses qui lâchaient. Donc, j'étais là. Et on partait sur des choses complètement débiles. Donc, Nicolas Viel me disait « Vas-y, continue, encore plus bête. » Et Anne-Relais Simon fait « Attention, le squelette du spectacle, il faut qu'on comprenne qu'il est là et qu'il aille dans ce truc-là. » Donc, ça a été un peu une petite guéguerre. Et eux, ils m'ont... Bah, comme un cheval fou, quoi. Ils m'ont tenu la bride. Et après, dès qu'on a arrêté l'impro, j'avais fait 2-3 heures d'improvisation, on s'arrêtait, on se mettait au bord plateau et on écrivait très précisément. Alors je disais blablabla, elle me dit ce mot, vas-y, dis-le là, dans ta bouche, qu'est-ce que ça fait ? Donc c'est vrai que c'est du sur-mesure pour moi, et même c'est vraiment chaque mot que j'ai dit, il fallait que je le sente, quoi. Et après, il y avait beaucoup de choses de surlignage un peu... Bon, c'est pas du tout, on n'est pas du tout Shakespeare, le texte n'a pas trop d'intérêt, mais c'était de comment on surligne des choses pour que les gens comprennent, qu'ils soient rassurés, qu'on redit « Non, mais les enfants, vous entrez après, Don José et tout ça », le metteur en scène sud-américain. Et donc, il y avait des choses très précises dans le spectacle du squelette pour pouvoir suivre l'histoire. Parce que c'est vrai que comme je joue beaucoup de personnages et que ça va très vite, il y avait besoin de dramaturgiquement que ce soit vraiment blindé.
Parce que la musique doit quand même conserver la dramaturgie qui est celle de Bizet.
Oui.
Parce que Bizet avait déjà fait une adaptation pour piano de Carmen.
De Carmen,
donc, vous êtes inspiré de...
Oui, alors celui qui a créé le rôle du pianiste, c'est Aurélien Richard, quelqu'un qui joue souvent au festival à Montpellier. Et lui, c'est lui qui a fait l'adaptation. Et Aurélien, lui, il a pris la partition orchestrale et aussi il a pris cette partition comme vous dites. Et nous, on avait déjà des idées. Avant qu'on ait eu un pianiste, on avait créé une étape de travail de 30 minutes au Théâtre du Peuple à Bussan. Et là, Jean-Michel Ribe l'avait vu, qui nous a pris après au Théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées. Et c'est vrai que là, on avait juste une bande-son et Nicolas Viel était à la régie, il faisait juste tin-tun, les deux premières notes, et moi je chantais a cappella La fleur que tu m'avais jetée. Donc, et on avait des idées par rapport à ce montage du spectacle de Boue, de Carmen. Et après, donc, on lui a dit, bon, moi j'aimerais bien qu'il y ait ça, on a pensé à ça. Et lui, il a pris toutes ces informations, on avait une demi-heure, donc après on en a fait 1h25. Et voilà, après, il a proposé autre chose. Nous, c'est vrai que la musique était dans la dramaturgie, comme vous dites, que ça fait avancer le schmilblick. Bah, quoi. Oui. Ouais, ouais, ouais.
Et puis, il y a un autre élément, excusez-moi, qui vous aide quand même, c'est la lumière. Enfin, c'est le jeu des lumières qui vous situe dans les différents endroits.
Ouais.
Parce que vous êtes dans des endroits, vous jouez plein de personnages dans des endroits différents aussi.
Oui.
Donc,
À la lumière de Pierre Perronet, j'aime bien les citer aussi, qui est très doué. Pierre Perronet, oui, c'est-à-dire que quand il est arrivé, on lui a présenté la demi-heure, il était mais qu'est-ce que je peux faire, moi ? Il n'y a pas de décor, il n'y a rien, il faut qu'il y ait une fête foraine, un truc. Et il m'a dit comment aider Olivier pour qu'il ait un partenaire de jeu, presque. C'est vrai que moi, je pense souvent qu'on est à trois, avec le régisseur Lumière, avec la pianiste et moi. C'est vrai que j'ai vraiment l'impression qu'on est trois, même voire quatre, parce qu'il y a une poursuite qui est importante aussi à des moments précis. C'est vrai que je ne me sens pas du tout seul sur scène.
Le chien, la chauve-souris.
Le chien, chauve-souris, tout ça. Ouais. Et c'est vrai que la lumière est très importante, avec juste des taches de lumière ou un couloir qui explique les sous-sols de l'opéra quand il se perd, quand il est dans sa trappe et tout ça. Il y a plein de détails, vous avez raison, la lumière a une grande part. Comme il n'y a pas vraiment de décor, c'est un peu une lumière décor. C'est vrai que c'est un gros travail qui a été fait.
En tout cas, moi, j'ai été vraiment surprise par le fait qu'il y avait plein de gamins. C'était des cinquièmes, sixièmes, je sais pas, des jeunes, quoi, des collégiens. Ils n'ont pas bronché.
Ouais, c'est fou, ouais.
C'est incroyable.
Très, très c'est, au contraire, c'est... des vieilles, qui elles bougent tout le temps.
Touchent tout le temps.
Est-ce que vous l'avez conçu, ce spectacle, aussi dans l'idée de donner envie aux gens d'aller à l'opéra?
C'était un des objectifs principaux, c'est vrai. Parce que et aussi le niveau de lecture. Ce que je disais, c'est qu'un sixième, ça le rend fou, le côté cartoon. Beaucoup de gens me disent, c'est marrant, on le voit en dessin animé, ce spectacle.
Ah, oui.
Alors moi, j'adore quand on me dit ça. Mais après, quand je vois un homme de 60 ans qui a été baryton, qui est très pointu, qui dit, ce spectacle est nécessaire pour l'opéra français. Voilà, ça me plaît d'entendre ces deux choses comme ça. Ou un homme, quand je l'avais fait à Bussan, qui a une dent, qui m'a dit, oh là là, c'est... Oh, dis donc, c'est mieux que la télé. Hein. Et je me suis dit, voilà. Des choses comme ça qui m'ont fait donner de la force et que j'ai continué ce spectacle. Mais vous avez raison, il y a un objectif d'ouvrir et un peu de désacraliser l'opéra. C'est-à-dire que les gens ont un peu peur d'aller à l'opéra.
Absolument.
On se dit, tout le monde est en queue de pie, il faut y aller en costume. Ben non, c'est-à-dire que c'est très important de...
Pour parler de vos costumes, alors vous êtes en tenue d'ouvrier
d'artisan.
Voilà,
ouais. Exactement, on voulait un peu ça. Parce qu'on ne voulait pas un neutre à la Cobert, jean, chemise noire. Mm. On cherchait autre chose. Bon, c'est bien aussi, tous les créateurs, Florence Laforge a fait les costumes, et c'est vrai que c'était important de trouver un neutre et en même temps qu'on voulait raconter quelque chose et qu'on oublie très vite ce costume. Parce que c'est vrai que moi, quand je suis Carmen, les gens, il y a des débats à la fin du spectacle qui font « Mais non, mais la robe de Carmen, elle est rouge avec des pois blancs. »
Je sais pourquoi, mais j'ai toujours trouvé ça très con, cette histoire. Pourquoi les gens s'imaginent que toutes les Sévillanes étaient habillées en rouge à petits pois simplement parce qu'il y a une entreprise quelconque qui a créé ces robes en série et qui les a mis en vente dans les marchés pour touristes. Et du coup, les Sévillanes, maintenant, elles-mêmes, elles s'imaginent que c'était comme ça qu'on s'habillait. N'importe quoi.
Ah, mais là, c'est le chaos. Ouais.
Vous allez, justement, vous allez vers le cliché et vous tournez le cou au cliché. Et ça, c'est très, très drôle.
Ouais, c'est bien.
Oui, le baryton, on imagine bien le baryton comme ça. Ouais. Et puis la grosse dandon qui n'a aucun rapport avec ce qu'on peut imaginer de Carmen, et qui joue Carmen, il faut s'imaginer que c'est Carmen. Et le plus intéressant, c'est que des fois, on y arrive.
Oui.
Et ça, c'est la magie de l'opéra aussi. Imaginez que cette grosse dame, frêle jeune fille.
Oui, vous avez raison.
Très rapidement, moi, je voudrais revenir sur le personnage du metteur en scène, qui est absolument hilarant.
Je
l'ai trouvé vraiment hilarant et qui transpose la Carmen dans une fête foraine.
C'est ça. Notre envie, c'était de raconter, excuse-moi, j'ai vite fait, notre envie, c'était de raconter une idée saugrenue qui voulait défendre, parce que ce que je trouve fou aussi, c'est que voilà, j'ai rencontré beaucoup de gens, 6 mois minimum à l'avance, ils doivent donner leur idée de scénographie. C'est-à-dire que même un accessoire, j'en ai parlé avec les frères Forman de République Tchèque, ils m'ont dit, voilà, là, par exemple, on me demande des accessoires très précis pour le spectacle. Et moi, il me dit, mais je ne sais même pas qui va chanter les rôles, même si on les a imposés. On m'a dit, voilà, ce sera cette soprane-là. Donc, ils arrivent, il y a le décor, les chanteurs, ils font, voilà, il faut qu'ils défendent son décor. Et donc là, la blague, c'est qu'il présente sa fête foraine et qu'il se rend compte que ça ne marche pas vraiment, donc il se sauve comme il peut. Et à la fin, en plus, on voit comment le metteur
en scène...
Avec
la barbe à papa.
Les brunes cigarières. Brune barbe à pépère. Le chef d'orchestre, les guerres entre le chef d'orchestre et le metteur en scène, déjà, qu'on ne peut pas dire brune cigarière, donc brune barbe à pépère, donc la prosodie est complètement à l'eau.
On va rappeler, parce que je vois que le retourne, que le spectacle s'appelle Au Carmen, c'est au 13 vents, et ce soir, c'est à 20h30, c'est la dernière.
Oui, c'est la dernière.
Donc il faut y courir.
Toutes les semaines, Vendredi Théâtre, c'est de 12h30 à 14h, l'émission qui assiste au spectacle et prend le temps d'en parler.